Et déjà 18h30 à Paris, l'heure de retrouver le débat du soir avec Romain Ouzoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique, et on parle du modèle social européen ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ouzoui.
Un modèle social à l'image de la France que le monde nous envie, selon la formule consacrée. Mais ce modèle va-t-il être sacrifié sur l'autel de la défense ? Un effort inédit va devoir être fait pour assurer demain la sécurité du continent suite au désengagement des États-Unis. Quels seront les choix budgétaires ? Notre question ce soir, défense, l'Europe doit-elle renoncer à son modèle social ? Est-ce dans ce domaine que les économies les plus importantes seront effectuées ? Mais dès lors, quelles conséquences ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités ce soir à mes côtés en studio, Catherine Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Face à vous, Pierre Jaillet, bonsoir.
Bonsoir.
Conseiller politique, économique et monétaire à l'Institut Jacques Delors et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Catherine Mathieu, pour commencer, est-ce qu'il est juste de parler de modèle social européen ou est-ce qu'il faut parler de modèles sociaux européens ?
Il faut parler de modèles sociaux européens. On a une grande diversité de modèles sociaux dans l'Union européenne. Alors la France est le pays aujourd'hui où le modèle social est le plus développé à l'intérieur de l'Union européenne. C'est nous qui consacrons le plus de dépenses publiques à notre modèle social. Et à l'opposé, il y a des pays qui ont un modèle social beaucoup moins développé, comme l'Irlande par exemple, où on a très peu de financement public pour les retraites, pour l'éducation, pour la santé, ou les pays d'Europe centrale et orientale qui ont aussi des modèles sociaux moins développés. Quand on dit modèles sociaux moins développés, c'est-à-dire que l'État intervient moins dans les dépenses consacrées à notre santé, à nos retraites, à notre éducation, à toutes les dépenses sociales.
Est-ce que ces différences, elles sont symboles, je dirais, des divisions européennes aujourd'hui, quand on dit que l'Europe avance divisée ? Ça se retrouve dans ce modèle social, dans ces différences de modèles sociaux ?
Non, je pense que la différence, elle se fait plutôt entre les pays qui ont souhaité mettre en place dès le début de l'union monétaire des règles budgétaires strictes pour limiter les déficits publics et la dette publique. Parmi ceux-là, il y avait l'Allemagne, qui a un modèle social qui est plutôt plus développé que la moyenne de l'Union européenne, et des pays qui avaient une autre vision de l'Europe sociale, qui considéraient qu'il fallait continuer à améliorer l'Europe sociale. Alors c'est le point de vue de la France, hein, depuis très longtemps, de dire qu'il faut améliorer les dépenses sociales. Et là, en fait, avec toujours cet objectif, hein, qui est au cœur de la création de l'Union européenne, d'améliorer le bien-être des populations à l'intérieur de l'Union européenne. Et au fur et à mesure qu'on a élargi l'Union européenne, en particulier vers les pays d'Europe centrale et orientale, on a intégré des pays qui avaient des niveaux de vie plus faibles que les pays qui étaient déjà dans l'Union européenne et qui avaient des besoins plus importants en matière de dépenses sociales pour converger vers le haut.
Pierre Jaillet, comment on peut le définir, ce modèle social européen, ces modèles sociaux européens ? Et encore une fois, en quoi ils font la spécificité ? Est-ce que vous diriez qu'ils font la spécificité européenne, d'ailleurs, par rapport à, je pense, États-Unis, Russie, Chine ?
Oui, non, il y a une spécificité européenne, hein, Catherine vient de le dire. Quand on regarde notamment les masses budgétaires qui sont utilisées pour financer ce modèle, la France est un petit peu, je dirais, exceptionnelle à cet égard, hein, puisqu'elle est effectivement le modèle social le plus généreux, il faut mettre peut-être des guillemets, généreux, mais en tout cas le plus coûteux aussi, et par rapport à d'autres pays. Mais quand on regarde effectivement ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays, au Royaume-Uni, dans des pays qui ont, j'allais dire, un héritage peut-être plus libéral, hein, dans la façon d'appréhender les politiques économiques, effectivement, l'Europe, d'une certaine manière, peut revendiquer une originalité de son modèle social.
L'Europe ou la France ?
La France particulièrement, et l'Europe aussi.
De ce point de vue-là, pardon, si on prend le modèle social irlandais, il est assez proche du modèle britannique. Hein. Il y a vraiment une grande divergence des modèles sociaux à l'intérieur de l'Union européenne, et traditionnellement, les pays nordiques, la Finlande, le Danemark, la Suède, ont aussi des dépenses sociales qu'on peut qualifier de généreuses par rapport à la moyenne des pays de l'Union européenne. La France est très proche de ces pays-là. Donc il y a vraiment des pays qui sont arrivés dans l'Union européenne avec des modèles sociaux très différents, un poids de l'État plus important dans certains pays que dans d'autres, dans certains types de dépenses. Et encore une fois, si on prend les mesures, les dépenses de santé, par exemple, ou d'éducation, on a un pays qui est relativement... où on a un modèle social développé en France, et ça n'est pas le cas du tout en Irlande. Et on n'a pas non plus du tout les mêmes inégalités de revenus, les mêmes niveaux de pauvreté, si on regarde l'Irlande aujourd'hui et la France, par exemple.
Est-ce que vous diriez que le modèle social, il définit l'Europe aujourd'hui et est-ce que c'est pour ça que, finalement, les derniers entrants, entre guillemets, vous disiez, en Europe centrale et orientale, ont moins cette spécificité sociale? Est-ce que là, ce qui définit originellement, je dirais, l'Union européenne, c'est justement ce point commun social?
Oui, je pense qu'il y avait un attachement à un certain niveau de modèle social, même si on a des modèles qui sont très différents à l'intérieur de l'Union européenne. Mais il y avait quand même la volonté, par rapport aux États-Unis, par exemple, d'avoir davantage de dépenses sociales, d'avoir moins d'inégalités de revenus, d'avoir moins de pauvreté. Donc, un certain nombre de critères qui sont importants pour une grande majorité des pays de l'Union européenne et qui se sont retrouvés notamment présentés dans le socle européen des droits sociaux, qui a une vingtaine d'objectifs. Parmi ceux-là, il y a le fait d'éliminer la pauvreté des enfants, par exemple. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout comme perception aux États-Unis.
Est-ce qu'il est mis à mal le modèle social européen, Pierre Jaillet? Alors, on va évidemment parler de la défense, mais déjà jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces dernières années, il est plus mis à mal?
Alors, il y a des contraintes budgétaires, bien sûr. Les contraintes budgétaires ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Et donc, d'une certaine manière, je ne dirais pas qu'ils sont mis à mal. On ne voit pas non plus de baisse des budgets sociaux. Mais c'est vrai que si on regarde, je dirais, la dérivée, c'est-à-dire la variation du taux de croissance, eh bien, on est plutôt dans une phase de stabilisation des dépenses sociales, précisément parce que les contraintes budgétaires reviennent au premier plan, et pas parce que, et on va y venir, j'imagine, il y a de nouvelles priorités. La nouvelle priorité du jour, c'est la dépense militaire. Et faudra-t-il arbitrer ou non? Si on arbitre, c'est aux dépens de quel type de dépense, s'il faut arbitrer.
C'est une variable d'ajustement, le social.
Ça fait partie des risques, mais déjà, peut-être sur cette question de contraintes budgétaires, je crois qu'il faut rappeler qu'en fait, les contraintes budgétaires dont vous parlez aujourd'hui, Pierre, ce sont des contraintes qu'on s'est fixées à l'intérieur de l'Union européenne, de dire on veut limiter les déficits publics, moins de 3% du produit intérieur brut. On veut limiter la dette publique, moins de 60% du produit intérieur brut. Et on a demandé aux pays de respecter, avec ces fameux critères de Maastricht, ces règles budgétaires depuis le début de la création de l'Union monétaire. Et finalement, un certain nombre de pays n'ont pas respecté ces règles budgétaires, dont je pense personnellement qu'elles n'ont pas de sens économique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, on ne se pose pas du tout la question de contraintes budgétaires telles qu'on se la pose à l'intérieur de l'Union européenne.
Il n'y a pas la règle des 3%, c'est sûr.
Non, ça n'existe pas.
Mais justement, est-ce que c'est une équation impossible pour préserver le modèle social? Aujourd'hui, la défense, on en vient. Dans l'Union européenne, c'est moins de 2% du PIB de l'UE en moyenne. Et selon le président français, il faut que ça passe à 3, voire 3,5%. Donald Trump espérait même que ce soit 5%.
Il demandait 5%.
Il demandait 5%, c'est énorme. Est-ce que l'équation, elle est impossible? Passer de 2 à 3% du PIB pour la défense, voire 3,5%, et garder les règles de déficit et préserver le modèle social. Enfin, moi, il va falloir faire des économies quelque part.
Ben, on peut voir les choses de plusieurs façons. On peut très bien dire que si on met une priorité aujourd'hui aux dépenses de défense, parce qu'il y a la guerre aux portes de l'Union européenne, il faut qu'on soit prêt à consacrer un certain nombre de moyens pour augmenter notre production militaire, pour augmenter notre défense. Et pourquoi cela devrait se faire au détriment des dépenses sociales? Je ne vois pas le lien entre les deux. On peut très bien dire qu'on a... Par ailleurs, la possibilité de lever des impôts. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est tabou de dire augmenter les impôts.
Par exemple, le gouvernement français a dit pas question.
Mais le gouvernement a dit pas question, mais c'est un choix.
C'est le gouvernement français.
Mais c'est un choix de société de dire aussi, à un moment donné, si on veut dépenser davantage ou si on doit dépenser davantage pour le militaire, on peut aussi décider de lever des impôts ou de mettre davantage à contribution certaines entreprises ou certains ménages les plus riches. Pourquoi cela devrait porter sur les prestations sociales dont bénéficient les ménages les plus fragilisés dans la société? C'est un choix de société important.
Mais cette position française, justement, est-ce qu'elle est à l'image de l'Europe?
Pas nécessairement. La position française sur le fait de ne pas augmenter les impôts, elle est là très clairement depuis qu'Emmanuel Macron est à la tête de la France, avec ce souhait d'avoir cette souhait d'avoir baissé les impôts. Il faut bien voir que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on a baissé les impôts. Mmh. Alors c'est aussi une façon de faire, de dire on commence par baisser les impôts parce qu'on estime qu'il y a trop d'impôts dans la société, dans l'économie française. Et une fois qu'on a baissé les impôts, on dit ah, maintenant on a un déficit qui s'est creusé. Donc il faut qu'on baisse nos dépenses. Et il faut qu'on baisse nos dépenses sociales. Alors que par ailleurs, on sait très bien qu'on a besoin de plus de dépenses en matière de santé. Tout le monde voit bien qu'à l'hôpital, on manque de moyens. Tout le monde voit qu'il y a des déserts médicaux. On a besoin de plus de dépenses dans l'éducation. On voit bien qu'on manque d'enseignants, qu'on n'arrive pas à revaloriser les salaires des enseignants. Et dans chacun des domaines que l'on regarde, on dit « Ah ben non, mais finalement, en fait, on a besoin de plus de dépenses ». C'est vrai aussi pour la police, maintenant on en parle pour l'armée. Et donc, il faut bien à un moment donné dire, il manque probablement des ressources.
Pierre Jaillet, justement, face à ce schéma que nous fait Catherine Mathieu, est-ce que vous êtes inquiet face à l'effort budgétaire qui est demandé face à la situation aujourd'hui sociale de l'Europe? Le plan de la Commission européenne, c'est 800 milliards d'euros.
Alors voilà, juste un petit point. D'abord, moi, les contraintes budgétaires, je crois qu'il faut quand même nuancer parce que le ratio de dette publique, en France, par exemple, a doublé depuis 1999 et on est passé à augmenter de 50% depuis 2019. Et la France est quand même le pays qui, depuis 2021, a continué à s'endetter, alors que des pays traditionnellement encore plus endettés que la France, je pense à la Grèce, à l'Italie ou même l'Espagne, se sont désendettés. Donc, à un moment donné, on peut dire non, il n'y a pas de contrainte budgétaire. Il faut savoir que le pacte de stabilité de croissance, c'est-à-dire les règles budgétaires, en fait, n'ont été respectées que dans une fois sur six pour le cas de la France et l'Italie. Ce qui veut dire qu'en réalité, les contraintes budgétaires, elles n'ont pas vraiment mordu, je vais dire, sur les politiques économiques.
Il faut faire sauter ce verrou-là ?
Pardon ?
Il faut faire sauter ce verrou-là ?
Il a sauté. Puisque personne n'a respecté ses règles.
Il y a
à peu près la moitié des pays qui ont respecté les règles sur les 20 ou 27
de l'Union européenne. Mais c'est pas reconnu, le fait qu'il soit... Comment dire, il n'y a pas de mesure qui...
Ah ben si, la mesure, c'est le nombre de pays qui ont précisément respecté les règles.
Et ces règles,
c'est non seulement les 3%, mais c'était l'idée de garder une marge de manœuvre en dessous de 3%, ce qu'on appelle le déficit structurel. Ouais. C'est-à-dire corriger des aspects cycliques et des charges d'intérêt de façon à garder une marge de manœuvre pour précisément les aléas cycliques. Or, en fait, on n'a jamais gardé ces marges de manœuvre.
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut financer ces 800 milliards d'euros de défense sans toucher quelconque dépense ailleurs?
Ça, c'est la question clé. Et en fait, l'arbitrage, c'est pas seulement est-ce qu'on dépense plus ou on dépense moins ou est-ce qu'on fait des arbitrages. Il y avait en fait une possibilité que le Conseil européen extraordinaire du 6 mars n'a pas gardé, qui était de faire un nouveau grand emprunt européen du type Next Generation EU, c'est-à-dire le plan de relance et de résilience qui avait été lancé au moment de la pandémie, 750 milliards. Ouais. Alors, d'abord, il n'y a pas eu de consensus entre les pays pour le faire. Et il y a une autre raison qui fait que le fameux plan de 750 milliards qui est laissé à la pandémie devait être financé par des ressources propres communautaires. Or, en fait, ces ressources propres ne sont plus garanties pour différentes raisons. Bon, on ne va pas trop rentrer dans la technique, mais ça devait être financé, par exemple, je prends cet exemple, par le gain attendu de la taxe minimale sur les firmes multinationales sur lequel les pays de l'OCDE s'étaient accordés. Or, M. Trump, en arrivant, a dit « je ne veux plus entendre parler de ça », ce qui fait que ça tombe à l'eau, et ainsi de suite. Et donc, il y a un certain nombre de recettes qui ne sont plus garanties, voilà. Et donc, ce qui est arrivé finalement, c'est que la Commission a proposé d'avoir un prêt communautaire, enfin un emprunt communautaire pour reprêter aux États, mais seulement à hauteur de 150 milliards. Ce qui fait que si vous prenez les 800 milliards, moins 150 qui seraient financés, évidemment, par ces emprunts communautaires, il reste 650 milliards à la charge des États. Et c'est là, effectivement, que se pose la question.
L'effort.
Quel effort? Est-ce qu'on s'endette plus ou est-ce qu'on ne s'endette pas? Mais dans ce cas-là, il faut faire des sacrifices.
Et vous nous dites qu'on peut s'endetter plus?
Ben oui, on peut toujours s'endetter plus. C'est-à-dire que si on décide de ne pas lever des impôts, de ne pas faire d'économies sur d'autres postes, et de ne pas le financer par un emprunt européen, il faut que les États qui en auront la charge. Et dans ce cas-là, ils vont devoir s'endetter. La question après ça, c'est ont-ils les moyens de s'endetter plus, sachant que, par exemple, la Cour des comptes, dans le cas de la France, a dit que la dette publique n'était plus sous contrôle.
Catherine Mathieu s'interrogeait sur le fait qu'il y a ce sacro-saint impôt auquel le gouvernement français ne touche pas. Il faut toucher à l'impôt? Il faut ne pas hésiter parfois à entrevoir des hausses d'impôts?
Ça, c'est dur, c'est une réponse politique, effectivement, à faire. Et quel est le degré d'acceptation d'un relèvement des impôts ? Bon, c'est une question qui est effectivement très sensible. On a un taux de prélèvement obligatoire en France et en Europe qui est déjà relativement élevé. Mais avant de se poser la question, est-ce qu'il faut relever les impôts ? Je pense que la vraie question, c'est d'abord, quelle est la masse ? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin impératif et urgent de dépenser beaucoup plus ? Alors que, par exemple, si vous prenez les dépenses militaires dans le cadre de l'Europe, c'est 326 milliards d'euros en 2024. Au passage, c'est trois fois les dépenses militaires de la Russie. Ouais. Alors, il faut corriger en fonction de la parité de pouvoir d'achat, etc. Et ça a augmenté de 30% depuis 2021. Alors, les experts tentent à dire... Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des milliards aux milliards, mais il faut aussi mieux se coordonner. Il faut améliorer l'interopérabilité des armements. Il faut se coordonner sur les achats, qui pour le moment, à plus de 50%, se font à l'extérieur, notamment aux États-Unis. Et il faut vraiment avoir une doctrine qui permette d'aller vers ce qu'on appelle un pilier européen de l'OTAN. Et une fois qu'on aura ça, après, il faut savoir... combien ça coûte, et c'est là que se pose la question du financement. Mmh. On a, d'une certaine manière, un petit peu mis la charrue avant les bœufs.
Ce que vous nous dites, c'est que le plan de 800 milliards d'euros n'est peut-être pas justifié.
Je dis que pour le moment, en tout cas, il est peut-être justifié à condition que ça finance vraiment un progrès vers une défense européenne qui, pour le moment, n'existe pas.
Catherine Mathieu, on va passer à la seconde partie du débat, mais c'est intéressant ce que Pierre Jaillet évoquait sur... l'endettement, jusqu'où l'Europe peut aller dans son endettement ? Peut-être sans fin, et dans ce cas-là, on touche aucun secteur n'est impacté par l'effort budgétaire de la défense.
Sur cette question.
Et pas le social, puisque c'est notre débat ce soir.
Sur cette question de l'endettement, si on est partisan des règles pures et dures qui avaient été adoptées à Maastricht, une dette publique ne devrait pas dépasser 60% du PIB. Pourquoi ? On ne sait pas vraiment. Ensuite, on a eu des crises qui se sont produites depuis la création de la zone euro. Il y a eu la crise financière, il y a eu la pandémie, le quoi qu'il en coûte, qui a fait beaucoup augmenter les dettes publiques dans toutes les grandes économies industrialisées. Aujourd'hui, on a une dette publique en France qui est de l'ordre de... 118% du produit intérieur brut, c'est moins que la dette publique rapportée au produit intérieur brut aux États-Unis, c'est moins que la dette publique rapportée au produit intérieur brut au Japon. Quel est le bon niveau de dette publique ? Là, c'est un grand sujet de débat parmi les économistes, mais on n'a pas une dette aujourd'hui hors de contrôle en France. Si on regarde les taux d'intérêt, qui sont un autre critère, le taux d'intérêt sur les marchés obligataires, on a des taux d'intérêt à 10 ans de l'ordre de 3%. Ces taux ne sont pas prohibitifs. Et on voit bien que les marchés financiers aujourd'hui se trouvent dans une situation où ils ont toutes les grandes économies industrialisées qui ont dû beaucoup, qui ont choisi de financer les économies, les ménages et les entreprises pendant la crise Covid, qui sortent de cette crise avec des niveaux de dette plus élevés et qui, ces marchés financiers, continuent à garder leur confiance dans les économies et dans leur capacité à rembourser leurs dettes. Je pense qu'il est important de rappeler qu'on est à l'intérieur de l'Union européenne, qu'on a la Banque centrale européenne et que les grandes banques centrales des grands pays industrialisés garantissent les dettes publiques.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Défense, l'Europe doit-elle renoncer à son modèle social ? Pour financer évidemment l'effort sécuritaire inédit qui est appelé à se développer dans les prochaines années. On parle de plusieurs centaines de milliards d'euros. Le plan de la Commission européenne, c'est 800 milliards d'euros. Ensuite, suite au désengagement des États-Unis, évidemment, et ce sujet va être à l'ordre du jour du sommet européen qui est prévu jeudi et vendredi cette semaine à Bruxelles. Mes deux invités sont Catherine Mathieu, que l'on entendait, qui est économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes, et Pierre Jaillet, conseiller politique économique et monétaire à l'Institut Jacques Delors et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je vais citer à présent un sociologue, Julien Damon, qui a fait le compte concernant la France, mais ça peut peut-être s'appliquer aussi à l'Europe, et c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Il rappelle qu'en 1938, donc on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les dépenses sociales comptaient pour 6% des dépenses publiques, les dépenses de défense comptaient pour la moitié des dépenses publiques. Et aujourd'hui, les dépenses sociales, c'est à peu près la moitié des dépenses publiques. Est-ce que vous craignez, Pierre Jaillet, que la tendance s'inverse à nouveau ?
Alors, pour qu'elle s'inverse, il faudrait vraiment rentrer dans ce que certains aujourd'hui appellent l'économie de guerre, qui est à mon avis un abus de langage. quand on a 2% de dépenses militaires par rapport au PIB et que l'on dit qu'on ne va pas relever les impôts et qu'on ne va pas toucher aux autres dépenses, on est loin d'être dans une économie de guerre. Donc, il est possible qu'il y ait un certain rééquilibrage, mais il se fera vraiment à la marge, puisque quand on parle de passer de 2% à 3,5% du PIB, hein, les fameux 800 ouais. milliards hein, sur plusieurs années, ça ne remet pas en cause le modèle social, de mon point de vue. Hein. Peut-être qu'effectivement, ça... Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le modèle social comme dépense publique. Je pense en particulier, il y a quelque chose qui passe un peu à l'arrière-plan actuellement, c'est toutes les dépenses d'investissement liées à la transition climatique. Curieusement, on n'en parle plus. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait sur la table une proposition de 800 milliards pour faire et financer toutes les dépenses liées à la transition climatique et écologique. Ben, plus personne n'en parle.
Et ça, c'est il y a un parallèle hein, entre l'environnement et le social. Alors, quand voilà. je posais la question à Catherine Mathieu, est-ce que c'est une variable d'ajustement ?
Si on fait des sacrifices, il ne faut pas qu'on le fasse non plus sur la transition climatique, parce que là, le risque, c'est pas le risque.
C'est un peu ce qu'on est en train de faire, hein, parce qu'il y avait un pacte vert qui avait été décidé à l'échelle de l'Union européenne. On sait qu'il faudrait pouvoir dépenser au moins 2% de plus d'investissement public et autant d'investissement privé pour pouvoir financer la transition écologique et pour pouvoir atteindre l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et là, effectivement, depuis quelques temps, ce pacte vert, il est complètement passé sous silence et on semble oublier l'importance de cette transition écologique pour se préoccuper de cette question à court terme de financer le réarmement de l'Union européenne, qui d'ailleurs n'est pas du tout une industrie verte au passage. Mais donc on a vraiment une grande question qui se pose. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette démarche qui est faite, enfin, ce qu'on peut peut-être signaler dans cette démarche qui est faite par la Commission européenne, c'est de dire... on va permettre aux pays d'augmenter de 1,5% de PIB leurs dépenses militaires en les mettant en dehors des critères budgétaires habituels. Mais que devient le pacte vert dans tout ça ? On n'en parle pas.
Et vous nous avez dit tous les deux hein, qu'on pouvait, finalement, l'Europe pouvait jouer sur l'endettement. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les dirigeants vont le faire ?
Alors, moi, je ne suis pas persuadé
qu'on puisse... Pierre Jaillet.
Non, j'ai un gros doute sur le fait qu'on puisse beaucoup et de façon illimitée jouer sur l'endettement.
Mais donc, il y aura des économies à faire.
Alors,
Il y aura des économies à faire.
Ah, il y aura des économies à faire. Alors là, les économies, ce n'est pas forcément sur les budgets sociaux, hein, même si la France est à nouveau un petit peu atypique et un modèle social qui est plus généreux qu'ailleurs. Il y a d'autres champs d'économie.
Lesquels ?
L'économie de fonctionnement, sur l'organisation administrative, sur peut-être sur certains types de subventions faites à certaines catégories d'agents. Je veux dire, ça, c'est un choix politique sur lequel il faudrait mettre en fait sur la table l'ensemble des dépenses publiques pour raisonner de façon tout à fait sereine et voir effectivement les points sur lesquels on peut faire des économies. Mais on a parlé de transition climatique. Il y a un autre arbitrage. Récemment, il y a eu un rapport qui a été fait par M. Draghi. Ouais. Sur la compétitivité et l'idée de rattraper nos retards de compétitivité. Hein. Et curieusement, les chiffres convergent puisque le rapport Draghi énonçait la possibilité d'avoir 800 milliards d'investissements supplémentaires pour financer tous ces investissements liés à rattrapage. Et parmi d'ailleurs ces 800 milliards, il y avait une partie qui était affectée à la défense et aux industries militaires.
Donc ce financement existe, est possible. Et
oui, mais il est possible, mais on ne pourra pas tout faire.
Ouais.
Je veux dire, si on met 800 milliards pour financer les dépenses milliards, si on veut maintenir notre modèle social avec juste raison, si on veut ne pas s'endetter plus et si on veut à nouveau 800 milliards, c'est une équation à de multiples inconnus.
Elles vont être où les coupes budgétaires, Catherine Mathieu ?
Alors là, aujourd'hui, on ne peut pas vous répondre sérieusement, puisque justement, cette augmentation proposée par la Commission européenne des dépenses militaires va se faire en dehors du cadre budgétaire. Donc on peut comprendre que chaque pays pourra s'endetter davantage pour financer ce plan. Et donc ensuite, les économies budgétaires ne sont pas du tout à relier avec ce plan. Peut-être que les pays... essayeront, mais prenons le cas de la France, par exemple, où on est supposé, avec les nouvelles règles budgétaires, réduire notre déficit public et notre dette publique. Si on dépense davantage pour la défense, ça va être en dehors de ces contraintes budgétaires. Ouais. Donc, le sujet ne change pas. Est-ce qu'on accepte de réduire nos déficits pour respecter les nouvelles règles budgétaires ? Ça, c'était la question qui se posait pour la France en 2024 et qui se pose encore aujourd'hui, sachant que si on suit les nouvelles règles budgétaires qui ont été actées par les pays de l'Union européenne, ça représente un effort budgétaire très important pour la France. Et donc, on s'engage vers des années d'austérité budgétaire si on veut remplir les objectifs qui ont été mis en place par l'Union européenne.
Pierre Jaillet, vous avez entendu ce qu'a évoqué Catherine Mathieu sur les économies actuelles qui touchent les hôpitaux, les écoles en France, par exemple. Il y a cette dynamique qui est en cours. Est-ce que... pourquoi elle ne s'arrêterait pas, cette dynamique ? Pourquoi, au contraire, elle ne s'intensifierait pas, on pourrait même dire, alors qu'il y a de nouvelles économies à faire ? Qu'est-ce qui peut laisser penser cela ?
Je ne suis pas un spécialiste de l'économie, des hôpitaux et de la santé. Hein ? Donc, est-ce qu'il y a encore de la marge d'économie là ou ailleurs ? Sans doute. C'est peut-être pas là où il y a le plus de marge à faire d'économie, je veux dire, sans doute. Mais... ce qui me gêne un petit peu, c'est de dire que l'idée, on en parlait tout à l'heure d'équations à multiples inconnues, ce qui est un petit peu gênant dans cette affaire, c'est de penser qu'on peut continuer à s'endetter indéfiniment sans faire des arbitrages par ailleurs en termes de fiscalité, en termes de dépenses et en termes d'allocation d'investissement, plus ou moins urgent. Hein. Et donc là... je vais dire à nouveau, hein, moi je reviens sur les contraintes budgétaires, mais est-ce qu'il y a, là je suis d'accord avec Catherine, pour dire, il n'y a pas une norme de dette publique qui est valable en tout temps et en tout lieu, hein, puisque finalement il faut regarder le montant initial des dettes publiques, et là il est très différent d'un pays à l'autre, et il faut regarder, il y a deux variables très importantes, c'est la croissance et les taux d'intérêt. Or en fait on a une croissance qui a tendance à être faible en zone euro, et nos taux d'intérêt qui ont tendance à monter. Hein, on est actuellement en finance en France à 10 ans aux alentours de 3,6 et ce qu'on appelle le spread, hein, c'est-à-dire la différence entre les taux d'intérêt français et allemands à 10 ans, bah, elle s'est accrue hein, depuis quelques mois et les Italiens, les Grecs et les Espagnols, on se finance à peu près au niveau actuellement de l'État espagnol ou de l'État portugais. Hein. Donc c'est pas dramatique, l'État n'est pas en faillite. Mais il y aura des choix à faire.
Je pense que sur cette question de spread, pardon, il faut pas non plus. Il faut quand même avoir en tête que, par exemple, hein, c'est très fragile hein, ces évolutions de spread, c'est très volatile. Et depuis que l'Allemagne a annoncé un plan de financement important hein, qui se dessine au cours pour les prochains mois, on voit bien que les taux allemands ont un petit peu remonté et le spread ne s'est pas creusé avec la France. On n'est vraiment pas dans une situation inquiétante.
Pour résumer, on peut pas jouer. Alors le mot jouer sur les règles d'endettement est un peu fort, mais assouplir. Vous nous dites finalement les règles d'endettement, Pierre Jaillet, et je voudrais vous donner le mot de la fin, il nous reste 30 secondes, Catherine Mathieu, puisque c'est notre question, il nous dit, Pierre Jaillet, que ça ne remet pas en cause le modèle social, les efforts à faire en termes de défense, est-ce que vous êtes d'accord ?
Je suis d'accord, ça ne remet pas en cause, et je pense surtout qu'il est important que les pays prennent bien en compte qu'il y a des besoins de dépenses sociales, et à un moment donné, il faut peut-être accepter d'avoir plus d'impôts.
Plus d'impôts, alors ça...
Alors, Pierre Jaillet. Moi je dirais, puisque si on arrive à la fin... Je veux dire, on parle actuellement de coordination et de dépenses communes sur le militaire. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que ce qui manque aussi dans la zone euro et dans l'Union européenne plus largement, c'est une convergence des politiques économiques. On a plutôt une divergence croissante entre les politiques économiques, entre les dettes. On a une hétérogénéité croissante à l'intérieur de la zone euro, en particulier de l'Union européenne. Et donc, ce qu'il faut retrouver aussi, c'est une dynamique pour retrouver une politique commune en matière de politique économique. C'est au moins aussi important que d'avoir, du point de vue des forces dans de notre avenir, que d'avoir des dépenses militaires importantes.
J'entends votre optimisme, et ce sera ma dernière question. Que serait une Europe sans le modèle social ?
Ça serait la remise en cause complète de nos modèles de société. Donc je pense que c'est important qu'on continue à réfléchir en tant que citoyen de l'Union européenne sur quel type de société on veut. Est-ce qu'on veut une société où le rôle du social a un point important, ou est-ce qu'on veut aller vers une société beaucoup plus libérale, d'autres modèles qui ne sont pas ceux que l'Union européenne a choisi pour le moment.
Et ben, le message est envoyé, pourvu que les dirigeants l'entendent de votre voix. Merci beaucoup Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Et merci Pierre Jaillet, conseiller politique, économique et monétaire à l'Institut Jacques Delors, chercheur associé à l'IRIS. Merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat, Claude Battista à sa réalisation. Bougez pas, RFI Soir se poursuit dans 30 secondes, ce sera l'heure du grand journal du soir avec Adrien Delgrange.